Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce lundi soir 3 mai 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous présenterons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. La force Rots du corps des gardiens de la révolution islamique est le facteur le plus efficace pour empêcher la diplomatie passive en Asie de l'Ouest, a souligné le guide suprême de la révolution islamique. Un incendie s'est déclaré ce dimanche 2 mai dans un champ de Moshav Zeitan, près de l'aéroport Ben-Gurion, dans les territoires occupés palestiniens d'Israël, et au moins 11 migrants illégaux se sont noyés au large des côtes ouest de la Libye, selon l'Organisation internationale pour les migrations. C'était les principaux titres, en voici le journal. À l'occasion de la Journée nationale des enseignants et de la Journée internationale des travailleurs, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei, s'est entretenu en direct avec le peuple iranien le dimanche 2 mai 2021. En raison de la pandémie de coronavirus, ce discours a été retransmis en direct sur les chaînes de télévision ERIP. Dans son discours, le guide suprême de la révolution islamique a souligné le rôle de la force Quds en République islamique d'Iran, avant d'exprimer ses regrets quant aux déclarations de certains responsables politiques du pays. Ces derniers jours, certaines déclarations étonnantes et regrettables ont été entendues de certains responsables du pays. Déclarations qui étaient diffusées par les médias de l'ennemi et des opposants à la République islamique. Une partie de ce qui a été dit est une réitération des propos hostiles de nos ennemis, une réitération des propos des États-Unis. Les plans d'un pays comprennent des plans militaires, scientifiques, sociaux, culturels et diplomatiques, et leur totalité constitue la politique d'un pays. Il est inutile pour un secteur de nier l'autre. Et c'est une grosse erreur qui ne doit pas être commise par les responsables de la République islamique, a déclaré le leader de la révolution. En Iran, comme dans d'autres pays du monde, le ministère des Affaires étrangères ne détermine pas les lignes de la politique extérieure du pays. Mais il les exécute, car ce sont d'autres instances supérieures, comme c'est le cas du Conseil suprême de la sécurité nationale en Iran, qui définissent les orientations de la politique étrangère du pays, a précisé l'honorable Ayatollah Khamenei. Le guide suprême a ensuite précisé: cela fait des années que les Américains sont extrêmement mécontents de l'influence spirituelle de l'Iran dans la région. Pour cette même raison, ils étaient en colère contre la force Rots et le martyr Rassem Soleimani. Et c'est pour la même raison qu'ils ont martyrisé Soleimani. Tout ce qui compte parmi les facteurs de l'influence spirituelle de la République islamique d'Iran dans la région les rend furieux. Saluant le rôle de la force Rots, le leader de la révolution a souligné:
Pour être juste, la force Rhodes est le plus grand facteur efficace pour empêcher une diplomatie passive en Asie de l'Ouest et la su mettre en œuvre la politique indépendante et fondée sur la dignité de la République islamique d'Iran dans cette région. Le guide suprême a fait ensuite remarquer que les Occidentaux étaient en effet contre tout mouvement diplomatique de la part de l'Iran, mais que cependant, la République islamique ne pouvait pas rester passive face à leurs demandes. Nous devons agir avec indépendance, dignité et force. Et c'est ce qu'a bien effectué notre force Rhodes dans la région. Les Occidentaux aspirent constamment à placer notre politique étrangère sous leur drapeau et qu'elle soit inclinée vers leurs orientations sous forme d'une subordonnée. Car ce fut ainsi depuis de longues années. L'Iran était sous la domination occidentale à la fois dans les dernières années de la dynastie Qajar et sous le règne des Pahlavis. La révolution islamique a libéré l'Iran de la domination américaine. Pendant ces 40 dernières années, les efforts des Occidentaux, tant les Américains que les Européens, visaient à réinstaurer leur ancienne domination sur ce pays. Voilà pourquoi ils se mettent en colère lorsque l'Iran établit des relations politiques et économiques avec la Chine, la Russie et ses voisins. Et le guide suprême de la révolution islamique a conclu en évoquant la faiblesse de certains voisins régionaux face aux pressions des Occidentaux. Je connais de nombreux cas dans lesquels, lorsque des hauts fonctionnaires des pays voisins voulaient se rendre en Iran, les Américains s'y opposaient. Or, la politique étrangère en Iran est à l'abri de toute interférence étrangère. Les sionistes vivent des jours les plus difficiles. Incendies, bombes, explosions, fusillades, ce n'est qu'une courte liste d'événements survenus récemment dans les territoires occupés d'Israël. Un incendie s'est déclaré ce dimanche 2 mai dans un champ du Moshav Zeitan, près de l'aéroport Ben Gurion, en Israël, a indiqué la police israélienne. 6 camions de pompiers assistés d'un hélicoptère ont été appelés sur les lieux pour maîtriser le feu. La police a évacué les personnes des maisons les plus proches de l'incendie. Une vidéo de la scène montre plusieurs voitures ravagées par les flammes. Par ailleurs, une bombe a explosé ce même jour dans la soirée dans la colonie sioniste Benjamin à Ramallah, a annoncé la chaîne d'information libanaise Al-Mayadin, rappelant qu'aucune perte en vie humaine n'est à enregistrer. L'explosion de bombe a eu lieu peu après la fusillade annoncée dans le sud de Naplouse en Cisjordanie. Des coups de feu ont été en fait tirés depuis une voiture vers des sionistes. 3 Israéliens ont été blessés, dont 2 se trouvent dans un état critique selon l'agence d'information palestinienne Paltoday. La fusillade a eu lieu près du poste de contrôle de Za'atara, au sud de Naplouse. Selon les témoins oculaires, un Palestinien est descendu de sa voiture avant de commencer à tirer sur les sionistes. Il est aussitôt monté dans sa voiture et a quitté la zone. Les militaires israéliens ont ensuite bouclé les entrées et sorties de la région. L'attaquant est recherché par les agents du régime sioniste. Sachez aussi qu'un incendie s'est déclaré dimanche soir sur le campus Mount Scopus de l'Université de Jérusalem dans la ville sainte. Tal Rotz a annoncé des Jérusalem Post, citant les responsables de l'université. La Cisjordanie et notamment la ville sainte d'Al-Quds sont ces derniers jours le théâtre d'intenses affrontements entre Palestiniens et sionistes. L'ancien premier ministre israélien Ehud Olmert a même averti il y a quelques jours que les attaques israéliennes finiraient par soulever une nouvelle intifada palestinienne. En Irak, une attaque aux roquettes a été menée dimanche 2 mai contre la base militaire américaine Victory dans la zone de l'aéroport international de Bagdad. Des sirènes d'alarme ont été entendues depuis la base US. Selon des sources d'information, au moins 5 roquettes ont été tirées, dont 3 ont touché la base, selon Sabari News. Une attaque semblable avait été aussi menée il y a quelques jours, au cours de laquelle 3 roquettes ont touché la base militaire US Victory. En Syrie, un citoyen tombe en martyr ce dimanche 2 mai par l'explosion d'une mine abandonnée par les daéchistes dans les fermes d'un village dans la périphérie de Salamiya, dans la banlieue de Hama. De même, 2 personnes ont été blessées dans l'explosion d'une mine abandonnée par les daéchistes dans la périphérie du village d'Ark, à l'est de la ville de Palmyre. Le directeur de l'Assemblée générale de l'Hôpital national de Palmyre, Vali Aouda, a indiqué que 2 personnes blessées par des éclats à cause de l'explosion d'une mine dans le village d'Ark, avaient subi les premiers secours à l'hôpital national de Palmyre avant leur hospitalisation ensuite à l'un des hôpitaux dans la ville de Homs. Par ailleurs, deux personnes, dont une affiliée à des mercenaires de l'occupation turque, ont été tuées. 5 civils ont été blessés dans l'explosion d'une moto à la bombe dans la ville de Suluk, dans la campagne du nord de Raqqa, occupée par les forces d'occupation turques et des groupes terroristes. Des sources locales ont déclaré qu'une moto à la bombe avait explosé dimanche dans la région d'Al-Sina de la ville de Suluk, dans la région de Talabiyat, dans la campagne du nord de Raqqa, tuant un terroriste et le cycliste et blessant un certain nombre de civils. Les sources locales ont ajouté que l'explosion avait causé des dommages matériels aux propriétés et aux maisons d'habitation de cette région. Au moins 11 migrants illégaux se sont noyés dimanche matin au large des côtes ouest de la Libye, selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Au moins 11 migrants se sont noyés ce matin après qu'un canon pneumatique a chaviré au large de Zavia en Libye, tandis que 12 survivants ont été secourus par les gardes-côtes, a écrit l'OIM sur Twitter. La perte continue de vie humaine exige un changement urgent d'approche de la situation en Libye et en Méditerranée centrale, a-t-elle ajouté. En raison d'instabilité et de troubles depuis plusieurs années, la Libye est devenue un point de départ privilégié pour des milliers de migrants qui tentent de traverser la mer Méditerranée pour rejoindre les côtes européennes. Au cours des derniers jours, des centaines de migrants clandestins ont été secourus par les gardes-côtes libyens et renvoyés en Libye, tandis que de nombreux autres se sont noyés en mer. Les migrants secourus se trouvent dans des centres d'accueil surpeuplés à travers la Libye, malgré les appels internationaux répétés demandant leur fermeture. Selon l'OIM et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les migrants et les réfugiés en Libye continuent d'être soumis à la détention arbitraire, à des mauvais traitements, à l'exploitation et à la violence, ce qui les pousse à entreprendre des voyages à risque, en particulier les traversées maritimes qui peuvent se terminer avec des conséquences fatales. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Israël reconnaît sa faiblesse face à la résistance. Après de récentes conspirations d'Israël visant à porter atteinte à l'axe de la résistance et avec à sa tête l'Iran, c'était au tour de l'axe de la résistance d'ôter le sommeil aux responsables israéliens. Les frappes surprises contre l'usine stratégique de Tomer, au cœur d'Israël, les installations nucléaires de Dimona, une raffinerie à Haïfa, etc. La crise actuelle a forcé le régime de Tel Aviv à reconnaître sa faiblesse face à la résistance, le Hamas entre autres. Une source israélienne reconnaît la victoire stratégique du Hamas face à Israël et indique que Tel Aviv n'a aucun programme précis pour s'engager avec Gaza. Le journal israélien Ma'ariv a rapporté que le mouvement Hamas avait remporté une victoire stratégique contre Israël et qu'il était en mesure de prendre n'importe quel risque ou aventure. S'agissant de récents incidents dans la bande de Gaza, des tirs de dizaines de missiles sur les territoires occupés et la faible réponse des Israéliens, Tal Levram, analyste militaire de Ma'ariv, écrit « Étant donné des recommandations avancées par des milieux militaires, le cabinet israélien n'a d'autre choix que de se montrer patient parce qu'il n'a pas actuellement de plan régulier et précis pour faire face au problème de Gaza. » Israël a prouvé qu'il n'était pas capable de lancer une offensive militaire contre Gaza. Après la levée des barrières métalliques installées dans la région de Bab al-Hamoud, le Hamas en a tiré cette conclusion qu'il ne pourrait arracher des concessions aux Israéliens que par le recours à la force, dit l'analyste israélien Ram avant de préciser. Les politiciens israéliens ont conçu les répercussions des événements survenus à Jérusalem, la Sainte Milrotz, qu'après le tir de plus de 40 roquettes depuis Gaza sur Israël. Nous nous trompons fortement si nous imaginons que le Hamas s'occupe à l'heure actuelle des frappes intérieures, de la situation économique des Palestiniens et de l'épidémie du coronavirus, et que l'aide financière du Qatar pourrait aider à calmer la situation à Gaza. Car ce qui s'est passé récemment a prouvé que la stabilité et le calme à Gaza ne sont pas uniquement liés à la situation économique ou au rétablissement d'un cessez-le-feu. Mais le Hamas a montré qu'il serait prêt à prendre n'importe quel risque, souligne l'analyste Maarif. Tal Evram avertit par ailleurs que le calme relatif dans les territoires palestiniens pourrait être perturbé du fait des développements qui se passeraient dans les prochains jours. Selon lui, les conflits à Gaza ont poussé le chef d'état-major interarmé israélien Aviv Kochavi à annuler sa visite à Washington. Tel Aviv cherche à faire de nouvelles tentatives d'influencer la décision finale de l'administration américaine de revenir à l'accord nucléaire avec l'Iran et de garantir les intérêts d'Israël dans la région.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce dimanche 2 mai 2021. Depuis une dizaine de jours, le régime israélien est exposé à des incidents d'ordre sécuritaire qui continuent de susciter l'inquiétude des dirigeants sionistes. Alors que le régime sioniste est toujours dans le choc d'être ciblé par un missile en provenance de Syrie qui a touché le centre nucléaire de Dimona, les sources d'information ont fait état des cyberattaques généralisées contre le régime de Tel Aviv à travers le monde. Selon ces sources, les mots de passe des milliers de courriels des employés de la fonction publique du régime israélien ont été publiés sur les réseaux virtuels. Parallèlement, un très vaste incendie s'est déclaré à Bazan, une raffinerie située dans l'une des régions très peuplées près de Haïfa. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ces incidents sécuritaires qui touche le régime israélien et bien entendu l'incapacité de ce régime à contrer en effet ces incidents sécuritaires. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
En Israël, des incidents sécuritaires se poursuivent à une cadence étrangement régulière et ils se ressemblent. À peine 10 jours après la méga-explosion au cœur de l'un des sites militaires les plus secrets d'Israël, enterré quelque part à Gush Dan, ce désormais fameux Tomer, sur quoi la presse sioniste a recherché tant bien que mal de passer l'éponge, cherchant à vendre la déflagration avec son trop gros nuage de champignons et le cratère qu'il a produit dans son sillage pour un test contrôlé de missiles Arrow 3, explosion qui, rappelons-le, a succédé de 24 heures, une fuite d'ammoniac à Haïfa et un tir de missile à 200 kg de charge près de Dimona, lequel tir a percé à la fois Dôme de fer, Fronde de David et Arrow évidemment. Un très vaste incendie s'est déclaré à Bazan, une raffinerie située dans l'une des régions les plus peuplées de la baie de Haïfa, sur une étendue de 201 hectares. Évidemment, Tel Aviv a cherché encore, comme ces 10 derniers jours, à étouffer l'affaire. Que se passe-t-il en Israël? L'appareil de renseignement israélien fait-il l'objet d'offensives successives qu'il n'avait même pas soupçonnées et qu'il est incapable de contrer? Jeudi soir, alors même que tout Israël se développe en état de cyberalerte maximale, à l'approche de la journée mondiale de Rotz, le 7 mai, une vaste cyberattaque a visé la société Veritas Logistique, société impliquée entre autres dans le transport maritime. Et c'est sans doute tout ce concours d'incidents inexpliqués qui a poussé le ministre israélien de renseignement, Eli Cohen, a déliré vendredi 30 avril et de brandir, faute de mieux, la menace de cette armée de l'air israélienne qui aurait des avions capables de bombarder les quatre coins du Moyen-Orient. Mais Cohen a raison de s'être emmêlé les pinceaux juste avant que Haïfa se mette à vivre des incidents quasi hebdomadaires et quotidiens. Gantz, ministre de la guerre, s'est inquiété lors d'une réunion d'urgence de nouvelles méthodes d'infiltration du Hezbollah. Pour arriver jusqu'à nous, ils innovent et utilisent de nouveaux modus operandi. Certains observateurs ont cru comprendre que le général sioniste parlait des attaques électroniques dont font l'objet de plus en plus fréquemment les avions et les drones israéliens depuis le ciel de la Syrie ou encore depuis l'espace aérien du Sud-Liban.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec M. Luc Michel, géopoliticien, et depuis Paris avec Mme Aïssa Hamidani, analyste franco-syrienne des questions internationales. Mme Hamidani, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et bonjour à M. Luc Michel et puis à toute l'équipe Presse TV et tous les téléspectateurs.
Madame Hamidani, comme vous le savez, depuis une dizaine de jours, le régime israélien fait l'objet d'offensives successives. Alors, le missile, les drones ou encore des cyberattaques. Quel premier regard portez-vous sur ces offensives, Madame Hamidani?
Alors, pour moi, d'abord, je vous remercie pour votre rapport qui est assez complet. Deuxièmement, je pense que c'est effectivement l'occupant sioniste un début de ce qu'il mérite, hein, puisqu'il a multiplié les escalades et puis les agressions tous azimuts dans la région, contre la Syrie, contre l'Iran, la centrale de maintenance, sur la Syrie, il a systématiquement envoyé des agressions, en fait, mais à partir du Liban, à partir de la mer, etc. Et à partir de la mer, présent, les réponses, les ripostes étaient des ripostes limitées, c'est-à-dire que les missiles qu'il avait envoyés ont été complètement interceptés ou pour certains, ils ont peut-être réussi à tomber en Syrie sans faire trop de dégâts. La centrale de Natanz a redémarré 24 heures plus tard avec enrichissement de l'uranium. Du même style, mais là, effectivement, je dirais, stratégique, la ligne de missiles qui a à peine 24 heures avant que le missile syrien ne parvienne jusqu'à 30 km de Dimona, que cette explosion importante. La raffinerie de Haïfa, on a parlé aussi même de l'uranium du côté de Haïfa qui part dans la mer. Donc, il y a une véritable offensive stratégique, je dirais, de l'axe de la résistance, du front de la résistance. Je loue totalement et que j'applaudis des deux. Effectivement, que cet état d'agression sioniste qui a usurpé les terres et qui continue d'ailleurs violence contre la population palestinienne en ces moments, en ces jours sacrés du Ramadan que des Pâques, les si bien catholiques qu'orthodoxes, ces agressions contre les gens qui viennent à main nue, mais juste pour faire par ça, et qui vient faire les messes à l'église de la Nativité à Bethléem. En fait, toutes ces agressions, en fait, cette, cette horrible insolence et violence, en fait, dont se dote le pouvoir d'occupation israélien, mériter et mettre effectivement une riposte, je dirais, qui lui permet de se tenir à carreau, qui l'oblige à se tenir à être respectueux des pays voisins et des peuples, des règles des Nations Unies, et surtout le respect des droits de l'homme, dont tous les pays qui le soutiennent, entre autres les États-Unis, pays occidentaux de l'OTAN,
merci, Madame
se
Denis.
Targuent à longueur de journée et qui ne font que les violer à longueur de journée. Et qui apporte à Israël, en fait, il ne fait qu'augmenter sa violence et son insolence vis-à-vis des pays voisins, tout en disant « Ah, on veut la paix », etc. Donc, j'avoue personnellement à ces réactions stratégiques et à ces réponses que je peux qualifier de stratégiques parce qu'effectivement, elles ouvrent le chemin. Une autre équation dans la région.
Merci, Madame Idani.
Une autre politique.
Merci infiniment pour ces précisions, Madame Idani. Restez avec nous. On va tout de suite se rendre à Bruxelles pour rejoindre Monsieur Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous et à votre équipe et bonjour à Madame Idani. C'est toujours un grand plaisir à vous.
Les incidents de ces derniers jours, bien entendu, les dirigeants israéliens ont cherché par tous les moyens possibles à les étouffer. Une première question justement sur l'origine de ces incidents. Est-ce que là, ces incidents seraient l'œuvre des facteurs domestiques ou bien découleraient d'une opération d'infiltration extérieure, M. Michel?
Écoutez, Israël essaye de dissimuler cela sous des incidents domestiques ou des attaques de hackers ou des choses pareilles. Mais il y a quelque chose de réel. On parle depuis de nombreux mois de la parité stratégique entre l'Israël et l'Israël. Comme dans les années 1980, dans le milieu soviétique, il y avait la parité stratégique entre l'Israël et l'Israël. Les pauvres du pays israélien étaient popularisés par leur nom de père. Et où l'aviation ukrainienne faisait la loi dans le ciel du Liban, dans le ciel de la Syrie, c'est terminé. Aujourd'hui, il y a la montée en puissance d'abord du secteur maritime de l'Iran, il y a les capacités de maîtrise et de protection de l'Est de la résistance, en particulier de la Syrie, qui sont une réalité. Avec la liste de la Syrie, il y a donc une parité stratégique pour indiquer que la neutralité pour Israël est discutée jusqu'à en cours de la part de la Syrie. C'est terminé. Netanyahou a été trop loin dans l'ascendance, dans des menaces qui ont été exprimées par le Sud, etc. C'est quelque chose qui se termine. Il faut savoir arriver maintenant sur les trois coups. Israël est menacé sous le front du Liban et de la résistance palestinienne, sur le front de la Syrie, sous le front du Yémen. C'est un changement. Les médias israéliens, d'ailleurs, commencent à reconnaître la situation. Il y a une quinzaine de jours, il y a eu un grand article dans le Times en Israël qui reconnaissait qu'une guerre ne pouvait pas être menacée entre Israël et l'Iran. Et que le Liban, justement, avait une capacité militaire égale à celle des Israéliens, à leur grande surprise. On comprend mieux, d'ailleurs, pourquoi les Américains de Paris, Londres et Berlin insistent tellement pour que l'Iran soit entrer dans les accords de Genève, vient de renégocier sous cette partie et se désarmer. Le but principal, ce n'est pas une menace qui serait sur les États occidentaux, c'est évidemment une menace sur Israël. Vous savez que l'Iran sert de prétexte dans les deux sens. L'Iran sert de prétexte aux menaces en Occident, à la fois pour justifier l'agression vis-à-vis de la Russie, mais savez que les installations de missiles de Radar en Pologne ou en Roumanie, aux frontières de la Russie, sont justifiées par une menace balistique iranienne, mais en même temps, dans l'autre sens, la sortie de la menace iranienne sur les pays occidentaux, elle vise en fait à protéger l'allié israélien. On est rentré dans un nouveau cycle géopolitique. Il faut retenir cela. Le temps de la puissance et de l'arrogance israélienne, il faut écouter les Israéliens eux-mêmes s'inquiètent d'une espèce de lutte contre les divisions israéliennes, suivie d'après une vision américaine, et qui dévoquent même un équipage d'Israël et des États-Unis. On sait en tout cas que l'actuelle administration Biden, elle est moins à la position du lobby pro-israélien et pas comme l'était Donald Trump, en particulier par l'attitude de Jacques Cousset et Netanyahu. Cela, c'est déjà tout cela fait que Israël va être rappelé dans son rang, qui est celui d'un pays normal.
Merci pour ces précisions. Monsieur Michel, restez avec nous, s'il vous plaît. Madame Edanier, donc, alors, cette parité stratégique dont parle Monsieur Michel, bien sûr, aujourd'hui, on assiste à un changement total des rapports de force dans la région, notamment entre le régime israélien, bien sûr, et les groupes de la résistance en général. Ceci étant dit, Madame Edanier, alors, de quoi aujourd'hui a-t-il peur le régime de Tel Aviv d'une prochaine guerre entre alors ce régime et les groupes de la résistance dans la région? Et si une guerre éclate, alors dans quelle mesure justement les équations, les rapports de force sur le terrain, sur le plan militaire changeront totalement?
Je crois que En fait, le régime sioniste a vraiment compris, il a conscience du fait que les rapports de force ont complété. Puisque quelqu'un comme l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'ensemble des défenses israéliennes ont été écrasées et qu'ils ont commencé aussi à s'attaquer. Netanyahu est en train de mener une politique personnelle pour, alors qu'il entraîne le pays dans une situation de grand danger au niveau de sa sécurité. L'ensemble, les différentes, parce que c'est ça qui est vraiment responsable, israéliens réagissent. Et ils s'attaquent entre eux, ils s'envoient des accusations, etc. Ce qui fait qu'en même temps, il est clair que la société israélienne de l'intérieur est en train de s'effondrer. D'ailleurs, un des responsables avait dit notre pays sans qu'il ne tire la moindre balle, parce que en fait tout le monde va à force d'avoir peur justement et du fait que ils ne se sentent plus protégés, que là, les colons ne se sentent plus protégés par leur pays. Je voudrais dire quand même ajouter cet incident qui a eu lieu sur l'effondrement l'effondrement du sol des colons qui était un énorme rassemblement religieux ou festif, disons, en fait, où il y a eu énormément des morts, des blessés, de secours possibles, etc. Donc, a augmenté de la et que même les choses essentielles dans leur pays ne sont pas gérées ou sont mal gérées. Donc, je pense que c'est tout ce qui s'est passé, ça constitue une victoire, effectivement, pour l'ensemble, pour l'axe de la résistance, dans le sens où les colons perdent de plus en plus confiance. État a quitté, d'ailleurs il y a de plus en plus d'articles dans les journaux dans ce sens où ils disent de toute façon Israël est en voie de disparition parce que les habitants vont quitter et quittent tout du fait qu'ils ne s'en sentent pas protégés, les habitants colonisateurs. Donc ça c'est un point très très important. Un autre point important, en fait, on voit que non seulement l'axe de la résistance augmente ses forces, non seulement par les armes et les capacités, aussi les capacités sur le plan informatique, fabrication plus donc précise sur le plan de la portée des armes et des missiles, sur le plan d'une détermination à la riposte et une détermination à la libération de la Palestine et de tous les territoires occupés par les Israéliens. Donc, en fait, tout ceci commence effectivement, ces idées ce sont des messages qui arrivent clairement.
Merci,
aux
Denis.
Oreilles des colons et qui arrivent aussi clairement aux oreilles des responsables politiques, et ce qui augmente leur peur, ce qui augmente leur panique. Et je pense que c'est en plus le changement de la situation de Trump qui soutenait les Israéliens qui, bien qu'il continue à soutenir d'Israël.
Merci, Madame Edani.
Il prend ses distances.
Merci infiniment.
Et ces dissensions entre les différents dirigeants, Netanyahou et Benny Gantz, et tous ces responsables, ça n'est pas fait pour rassurer, je dirais, la population.
Merci.
Des colons. Donc, effectivement, la peine, la peur augmente. Et elle laisse place, à mon sens aussi, au départ de plus en plus massif vers l'extérieur, c'est-à-dire
merci,
le retour des colons qui sont venus d'Europe et du monde entier vers leur pays d'origine.
Merci infiniment. Une toute dernière question à M. Michel. Monsieur Michel, les récents incidents en Palestine occupée ont révélé à grand jour à quel point le régime sioniste était...
Allô?
Monsieur Michel, est-ce que vous m'entendez?
Allô? Oui, tout de suite. Ah, pardon.
Monsieur Michel, est-ce que vous m'entendez?
Je vous écoute, tout à fait.
Très bien. Alors, je disais, alors les récents incidents en Palestine occupée ont révélé, en effet, à grand jour, à quel point le régime sioniste était vulnérable, d'où justement, alors, cette peur, cette grande inquiétude des dirigeants sionistes, alors, à court terme, à la veille de la Journée mondiale de Rhodes, et à long terme, bien entendu, alors, à l'hypothèse de l'éclatement d'une prochaine guerre. Ceci étant dit, quelles sont aujourd'hui les marges de manœuvre du régime de Tel Aviv face notamment à l'éclatement d'une prochaine guerre?
Écoutez, elles sont très faibles parce que le changement de la transition stratégique au Proche-Orient avec le rétablissement de la parité stratégique entre la résistance et Israël, il s'accompagne, il se passe dans des crises profondes de la politique israélienne. Le Likoud est en recul et la toute-puissance au cours de la dernière décennie du Likoud qui a conduit à la likoudisation d'ailleurs du mouvement sioniste mondial et des lobbies pro-israéliens aux États-Unis et en France, aujourd'hui le Likoud est en recul. La toute-puissance de Netanyahou n'existe plus, il a des concurrents sur sa droite, notamment en France, notamment les dirigeants de la droite religieuse, et en plus de cela, il est fragilisé par les poursuites judiciaires, les affaires de corruption, etc. Il y a d'ailleurs un risque qui existe et qui est souligné par le reste d'ailleurs de la classe politique et notamment les médias israéliens comme le Times d'Israël, c'est que la solution trouvée par Netanyahou pour se maintenir au pouvoir, ses présidents, l'hypothèse d'une grande guerre qui va susciter patriotisme et plus des Ukrainiens. Ça vous explique d'ailleurs cette politique jusqu'au bout. C'est un peu une politique qui commence aux États-Unis en faisant référence à la bataille d'Alger en 1947. C'est un peu de combat, c'est l'attaque de la centrale nucléaire iranienne de la France. Et ce sont les différents cas qui sont dotés de la balance. Tout cela fait que l'Israël est dans une position fragilisée et que, bien au contraire de ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité nationale, il y a au contraire la culture de cette unité. Et quand vous suivez de vos mots la politique israélienne, il y a eu notamment 10 élections qui se sont dites. Il y a non seulement plus de majorité qui se dégage, mais en fait, la politique israélienne, ça ressemble à un diable qui se dégage. Ou des nationalistes qui sont prêts à tout pour se dévorer. C'est la part de la victoire d'Israël où la toute puissance israélienne dominait la nation, c'est terminé.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales depuis Paris. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Pays des merveilles. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. La semaine dernière, nous vous avons présenté des sites historiques importants de la province d'Ispahan. Cette semaine, nous allons décrire en détail la mosquée Imam ou la mosquée Shah, symbole de la magnificence de l'architecture islamique d'Iran, ainsi que l'élégant pavillon d'Ali Rapou. Restez avec nous. Sur l'aile sud de la place historique d'Ispahan se trouve l'une des plus importantes mosquées de l'époque safavide, appelée la mosquée de l'imam Khomeini ou autrefois la mosquée du Shah, connue aussi sous le nom de la mosquée Abbasi. Elle comprend 4 ivans et 4 minarets. L'édifice a été construit au XVIIe siècle à l'époque du roi Abbas Ier. Sa construction a duré environ 26 ans. La mosquée de l'imam Khomeini, qui est un chef-d'œuvre éternel de l'architecture, de l'œuvre de gravure et de mosaïque, a été enregistrée en 1932 avec l'ensemble de la place Naqsh-e-Jahan sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La principale porte de la mosquée est décorée par des poèmes en relief. Incrustée de l'or et de l'argent, la porte est décorée par de très beaux motifs, constituant ainsi l'un des chefs-d'œuvre artistiques de l'époque safavide. L'inscription du frontispice a été écrite par Ali Reza Abbasi, le calligraphe de grand renom de l'époque. Elle constitue, du point de vue de l'architecture et des décorations en mosaïque, l'un des chefs-d'œuvre architecturaux de l'Iran. Chaque céramique s'avère un tableau d'art magnifique.
les vannes triangulaires de l'entrée de la mosquée avec deux minarets hauts de 27 mètres de couleur bleu turquoise donnent sur la place. Derrière se trouve un dôme de 52 mètres d'altitude. Le couloir d'entrée de la mosquée est un chef-d'œuvre architectural magnifique. L'architecte a construit deux passages de longueur différente des deux côtés du couloir pour ainsi tourner l'axe de la mosquée dans le sens de la rive plat avec un angle de 45 degrés. Ainsi, l'équilibre de l'édifice de la mosquée et ses dimensions se maintiennent avec le changement de direction vers la rive plat. Au milieu de la mosquée, il y a un beau et grand bassin. Dans les ailes orientales et occidentales de la mosquée, se constatent deux salles de prière symétriques. Celle de l'est est plus grande, mais simple et sans décoration, tandis que celle se trouvant à l'ouest est plus petite, avec des faïences de cette couleur et un mihrab, l'un des plus beaux des mosquées d'Ispahan. Le majestueux dôme qui couvre la vaste étendue de la salle de prière méridionale de la mosquée figure parmi l'un des plus hauts dômes de mosquée en Iran. Ce dôme comprend deux couvertures, se situant l'une sur l'autre de 12 mètres de distance. Tel un joyau, son extrador de 52 mètres d'altitude, couvert de céramique turquoise, brille à l'horizon. Vu l'espace de 12 mètres entre l'intrado et l'extrado du dôme, la voix se répercute juste au milieu et au foyer de la salle de prière, à tel point que la voix de l'orateur ou n'importe quelle personne qui parle à cet endroit ou devant le mihrab résonne dans toute la salle de la mosquée. Les inscriptions de la mosquée de l'imam qui se constatent sur les dômes, les ivanes et les surfaces quadripartites de la mosquée en mosaïque de cette couleur sont l'œuvre des artistes et des calligraphes de l'époque safavide. Sur les deux angles du sud-ouest et du sud-est de la mosquée se trouvent symétriquement deux madrassas appelées Nasseri et Soleimaniye. Dans la mosquée du sud-ouest, on remarque une simple pierre de forme de l'indice, placée dans un endroit déterminé pour montrer midi à Ispahan en toutes les saisons de l'année. C'est Cheikh Bahai, le célèbre faqih, savant, mathématicien de l'époque safavide, qui a exécuté l'évaluation de cet indice. La mosquée de l'imam se distingue des autres mosquées en Iran. Aucune partie de la mosquée ne ressemble à une autre. Par exemple, les mosaïques du plafond et du mur ne se ressemblent absolument pas. La grandeur et la splendeur de la mosquée de l'imam a toujours retenu l'intérêt des iranologues et d'experts en art, notamment en architecture. Le professeur Arthur Van Pope, le célèbre iranologue, a écrit dans son ouvrage sur l'architecture iranienne au sujet de la mosquée de l'imam « Cette œuvre historique témoigne de l'apogée de 1000 ans de construction de mosquées en Iran. D'une part, le beau tableau de la porte et du dôme suscite l'admiration de l'homme et de l'autre, la répétition équilibrée des éléments de construction, des arcades symétriques, des ivanes équilibrées et l'influence de la couleur qui s'étend sur toutes les surfaces de l'édifice aide l'homme à mieux saisir la magnificence de cet édifice. Alirapu est un élégant pavillon qui, malgré son apparence élancée, repose sur ses bases solides jetées il y a environ 5 siècles. Alirapu, avec ses 386 mètres de long, 140 mètres de large et son hauteur de près de 48 mètres, constitue un exemple unique de l'architecture des palais des Safavides datant du début du 11e de l'Égypte, 17e siècle de l'ère chrétienne. Les rois Safavides recevaient dans ce palais les ambassadeurs et les hautes personnalités des autres gouvernements. avec 6 étages, dont chacun détient des décorations particulières, le palais Al-Irapu est un complexe merveilleux. Le premier étage était la résidence des gardes, le deuxième étage les cuisines, le troisième étage la salle de repos et le sixième étage avec de belles plâtries servaient de salles de musique. La caractéristique de cette salle vient de son architecture. En effet, avec des plâtries sur les murs et le plafond, la voix des instruments de musique et des chanteurs se faisait entendre de façon naturelle et sans résonance. Un vaste Ivan majestueux se trouve au dernier étage d'Al-Irapu qui donne sur la place de l'imam. De grandes colonnes en bois entourent l'Ivan tandis qu'un très beau plafond se constate au-dessus des colonnes. Cet Ivan était l'endroit principal où les cérémonies et les fêtes se déroulaient. C'était aussi depuis cet Ivan que le roi, en compagnie de sa cour, regardait les compétitions de polo qui se déroulaient sur la place Narshe-Jahan. En fait, un vaste panorama s'ouvre devant tout visiteur qui se trouve en haut de l'édifice, permettant une belle vue de la ville belle historique d'Ispahan et la place Narshe-Jahan. Chers auditeurs, nous voici à la fin de ce programme. La semaine prochaine, nous poursuivrons la visite des sites de la belle ville d'Ispahan. Soyez donc nombreux à nous rejoindre la semaine prochaine aussi. Au revoir et bonne semaine.